France Culture.
Réplique, l'héritage du pape François avec Jean-Marie Guénois et Jean-Louis Schlegel. Nos sociétés ont beau être très largement déchristianisées, elles se passionnent pour la papauté, comme en témoigne le dernier conclave. L'audience de l'évêque de Rome va très au-delà du monde catholique. Et c'est particulièrement vrai du pape François, qui est intervenu sans ménager sa peine sur les questions les plus sensibles du moment. J'ai donc invité aujourd'hui, pour tenter un premier bilan de ce pontificat sans temps mort, Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef du Figaro, chargé des questions religieuses, et Jean-Louis Schlegel, qui est membre du comité de direction de la revue Esprit. Commençons par le nom que s'est choisi le cardinal Bergoglio. Pourquoi François ? François tout court, qu'est-ce que ce choix nous dit de lui et de l'orientation de son magistère ? Jean-Marie Guénois.
Il y a deux anecdotes pour vous répondre. La première, c'est qu'au tout début, nous avons écrit, les journalistes, François Ier. Et évidemment, très très vite, des ordres sont venus d'en haut pour dire surtout pas de premier, c'est François tout court. La seconde anecdote, c'était juste après l'élection. Le samedi qui suivait, le pape reçoit tous les journalistes. C'était une première dans l'immense salle Paul VI, une salle d'audience, 5000 places, pour une audience avec les journalistes, le monde des médias. Nous étions à l'époque 6000 à avoir couvert ce conclave. Et puis, à un moment donné, le pape dit cette phrase « Sogno a una chiesa povera per i poveri ». Je rêve d'une église pauvre pour les pauvres. D'une certaine manière, tout était dit et s'expliquait alors son nom de pape, François, qui nous transporte à 200 km au nord de Rome, à Assise.
Assise, bien sûr.
Chez Saint François d'Assise. Et là, il y a deux éléments essentiels. Il y a évidemment une vie, un ancien fils de drapier très riche qui devient un poverello, un errant de Dieu et qui vit une vie extrêmement simple, pauvre. Et le deuxième élément, c'est à travers la prière de François d'Assise, Saint François d'Assise dans l'Église catholique, ce contact inouï avec la nature. Et ça annoncera évidemment l'écologie. Donc je crois, pauvreté, écologie, nature, tout est dit, et ce nom était un programme.
Et pas de chiffres pour rappeler François d'Assise, c'est ça, à votre avis?
Alors,
bien pour être, si vous voulez, un pape sans précédent, sans successeur.
Il y a ça, il y a une petite coquetterie quand même de la part de Cardinal Bergoglio, mais il y a aussi la mémoire longue de ce monde du Vatican. François Ier, c'est impressionnant quand on est au Vatican de voir combien on raisonne sur des siècles. Donc il ne fallait surtout pas d'amalgame entre François Ier et François le pape.
D'accord. Jean-Louis Schlegel.
Oui, je crois que Jean-Marie a dit l'essentiel. Saint François, c'est le pauvre d'Assise, désigné aussi, appelé, enfin surnommé la copie du Christ. Alors c'est le seul dans l'histoire quand même qui est la copie, c'est le seul qui porte ce nom dans la piété populaire catholique. C'est vrai que la pauvreté, il nous a quand même impressionné au tout début là-dessus. Après, ça a un peu disparu. Peut-être, même s'il n'habitait pas les appartements pontificaux, le thème a un peu disparu. Mais moi, je me souviens qu'il nous a tellement interrogés en 2014, 2013, dans les mois qui ont suivi, sur ce thème, qu'on s'est demandé, disons, quelques amis de la classe aisée, moyenne aisée, on va dire. Mais comment pouvons-nous être pauvres dans des sociétés riches? Comment pourrions-nous être un peu aussi participants de ce programme de la pauvreté? Je dois dire qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses là-dessus. C'est très difficile de s'imaginer de devenir plus pauvre. Alors, comment l'Église peut-elle devenir plus pauvre? Tout ça, c'est des questions un peu rhétoriques, mais il a quand même réintroduit ça. L'autre aspect là, que je verrais quand même, c'est François sent l'appel à reconstruire la maison, l'Église. je pense quand même que il y avait aussi cette idée qu'il pouvait penser à réformer déjà quelques aspects de l'Église. Personnellement, je l'ai toujours pensé. Alors, on va voir s'il a réussi, mais il avait des envies de réforme au début.
Oui, d'accord. Il avait des envies de réforme. Rendre pauvre une Église riche dans un monde riche, en effet, c'est très difficile. Des gestes très ostentatoires ne peuvent pas y suffire. C'est pas en changeant les Mercedes pour des petites Fiat que on se rapproche de Saint François d'Assise. Il n'en reste pas moins que François a voulu mettre l'Église au service des pauvres et des plus pauvres, de ceux qui souffrent, notamment des migrants. Et vous dites, Jean-Marie Guénois, que la grande révolution de ce pape, puis vous intitulez votre livre, le pape François, La Révolution, c'est la révolution de la fraternité. Et en quoi consiste-t-elle exactement, Jean-Marie Guénois ?
Je crois que fondamentalement, le pape François a voulu, plus qu'une une révolution religieuse, plus qu'une rénovation religieuse, il a voulu une révolution culturelle. C'est très important, parce que ça rejoint la discussion que nous venons d'avoir sur le jusqu'où cette pauvreté. Il savait très bien que matériellement, les choses n'évolueraient pas aussi simplement que ça, à savoir même par exemple l'histoire de l'appartement qui a finalement coûté plus cher en service de garde, en organisation, là où il était, plus modeste certes, mais l'appartement pontifical est très sobre aussi. Bon, bref, le nouveau pape ira sans doute dans ses appartements pontificaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fond de la visée profonde de François, c'est de changer la culture de l'Église. Il ne peut pas changer la religion, il ne peut pas le faire, les dogmes, il ne peut pas y toucher, mais il voulait que les catholiques et ceux qui regardent l'Église de l'extérieur comprennent que l'Église n'est justement pas dans ses richesses, dans ses apparences, dans son orgueil parfois, mais aussi dans son humilité, mais qu'elle est justement sur les traces de François. Et là, sur la question de la fraternité, donc j'ai pris assez facilement les trois thèmes fraternité, liberté, égalité, trois mouvements culturels profonds, où François cherche à faire que même des gens très aisés se sentent en permanence questionnés en conscience, et c'est là où on touche la question de la révolution culturelle, il touche les consciences presque avant le cœur pour sans arrêt mettre en cause les sociétés occidentales et ceux qui les habitent et leur dire que faites-vous de votre héritage, que faites-vous de votre argent, que faites-vous pour ceux qui n'ont rien, que faites-vous pour ceux qui traversent au prix de leur vie la Méditerranée. Êtes-vous inconscient? Êtes-vous sans aucune âme? Et c'est là, à mon avis, la pointe. C'est au fond un travail de conscience. Il a cherché à ce que l'humanité, il s'adresse à toute l'humanité, pas seulement aux catholiques, retrouve, au fond, son devoir de conscience.
Oui, d'ailleurs, il a parlé de fanatisme de l'indifférence. C'est un oxymore tout à fait extraordinaire. Et il a dit, tout immigré... D'ailleurs, je vous cite le citant, Jean-Marie Guénois, « Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ qui s'identifie à l'étranger de toute époque, accueilli ou rejeté. » Et en témoigne notamment cette très fréquente référence à la parabole du bon samaritain. Est-ce cela, Jean-Louis Schlegel, le message le plus important du... pape François, et vous reconnaissez-vous, en tant que catholique de gauche, dans un tel message, Jean-Louis Schlegel ?
Alors, juste un petit retour sur les appartements pontificaux où il n'a pas voulu habiter. Il a dit après que ce n'était pas du tout pour des raisons de pauvreté, mais qu'il avait besoin d'avoir de la compagnie, des convives, enfin de pouvoir parler dans les repas, des choses comme ça, avec d'autres, voilà, pouvoir échanger. Donc il a quand même précisé cela, que ce n'était pas pour des raisons de pauvreté, parce que je crois qu'en plus, ces appartements pontificaux ne sont vraiment pas très, très sympathiques, du point de vue humain, tout simplement, pour quelqu'un qui vit tout seul là-dedans. Moi, pour les immigrés, c'est vrai que j'ai quand même l'impression, je peux me tromper, que cette question s'est imposée à lui, une fois pape, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé tout à coup, lui, argentin, devant le cimetière méditerranéen, quoi, pour les immigrés, et que ça l'a un peu saisi sans qu'il le prévoie vraiment. Son premier voyage, 3 mois après, en juillet, je crois, a été à Lampedusa, et donc il a sorti déjà, il l'a ressorti à Marseille, peut-être à d'autres reprises aussi, le fanatisme de l'indifférence. Et donc après, je ne sais pas, est-ce que c'est l'expérience de Lampedusa, est-ce que c'est d'être quotidiennement affronté à, donc au fait qu'il y a des immigrés qui mouraient en Méditerranée, je ne sais pas, mais c'est devenu effectivement une sorte de message fondamental, répété, redit, imposé à toute l'Europe, enfin si on peut dire ça comme ça, il rappelait constamment le principe de l'accueil.
Et que pensez-vous d'un tel message,
Jean-Marie? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Louis Jouguel, et on est suffisamment amis pour évidemment débattre sur le fond. Je pense que sa prise de conscience vient de plus loin. Il est latino-américain, il n'est jamais allé aux États-Unis par principe. Il accuse les États-Unis de domination sur l'Amérique latine. Il se scandalise devant les flux et les flux de migrants qui veulent passer en Amérique du Nord. Donc, sa révolte, sa colère vient de là. Bien sûr, elle est éveillée encore plus quand il arrive en Europe et qu'il prend conscience de ses mouvements en Méditerranée. Mais il y a là une très vieille histoire en lui. C'est le jésuite latino-américain, Jean-Louis, vous connaissez bien le sujet, qui crie à l'Europe endormie, il l'appelle endormie, ce message. Maintenant, il y a une autre chose sur thème de l'immigration, c'est que François, certes, il a dit ce que a toujours dit l'Église, et pas seulement l'Église. Quelqu'un est en difficulté, il frappe à ta porte, que ce soit ton appartement ou ton église, tu ouvres la porte. Il n'y a pas de discussion. Ça a toujours été la grande tradition de l'accueil de celui qui est perdu. Deuxième élément, que lui, dont il n'a pas beaucoup parlé, c'est que l'Église jusque-là, et on le voit dans les années 70, juste après le Concile, l'Église était vecteur, leader sur la question du développement. Elle disait toujours, il faut que les gens puissent vivre dignement chez eux, avoir une école, avoir un travail, avoir un toit, un avenir. Et cette partie-là, François ne l'a pas trop développée, allant plutôt toujours sur la mauvaise conscience des Européens, des Occidentaux, ces grands égoïstes qui ne voulaient pas accueillir. Je pense qu'on va peut-être revenir sur ces sujets-là maintenant.
Oui, on va y revenir, parce que on peut se demander, même d'un point de vue catholique, si on a le droit de transposer mécaniquement la parabole du bon samaritain à l'accueil qu'un continent devrait à des millions d'étrangers. Et puis, Benoît XVI, donc le prédécesseur de François, disait « On ne peut pas penser édifier une maison commune européenne en négligeant l'identité propre des peuples de notre continent ». Or, il me semble quand même que le pape François n'avait aucun souci de cette maison commune européenne et qu'il voulait au contraire en abattre les murs. Abattre les murs de cette maison pour une sorte d'hospitalité inconditionnelle. Et d'ailleurs, il parlait de l'Europe comme une grand-mère quasi stérile et craintive face à ceux qui demandent asile. Donc, il opposait, en quelque sorte, me semble-t-il, à une chrétienté révolue, ceux qui réclament une fraternité universelle. Jean-Louis Jouguel.
Oui, c'est possible. Moi, je ne l'ai pas senti tellement axé dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'il a toujours voulu rappeler d'abord le principe aux vieilles nations d'Europe qui se disent chrétiennes, ce principe de l'accueil de l'autre, de l'immigré. Il a quand même corrigé une fois ou l'autre en disant, écoutez, je vous rappelle le principe, ensuite chaque nation se débrouille aussi pour voir ce qu'elle peut faire ou qu'elle ne peut pas faire. Mais si vous voulez, je sens quelque chose comme un énervement chez lui, argentin, du sud global même, si on veut parler dans ce sens-là, un énervement à propos des nations européennes chrétiennes qui sont riches, peut-être selon sa représentation, et qui font peu d'efforts pour cet accueil des immigrés. Ils pensent certainement qu'elles pourraient mieux faire, Et quand elles lui disent, mais nous sommes les vieilles nations chrétiennes, nous sommes, disons, à l'origine même du christianisme par certains côtés, lui répond, mais où est votre christianisme? Où est-il? En quoi êtes-vous chrétien? Donc, en ce sens-là, il est certainement un peu différent de Ratzinger, oui, tout ça, à fait. Sûr. Ratzinger, c'est un fait. Les nations d'Europe sont chrétiennes, hein, avec un habitus chrétien. Pour François, il interroge au contraire, mais dit, mais êtes-vous encore chrétienne? Que mettez-vous derrière ce mot? Et pour lui, évidemment, c'est l'accueil.
Oui, êtes-vous encore chrétienne? Mais effectivement, l'héritage européen lui importe peu, me semble-t-il. Il apprenait continuellement, je le cite, une généreuse ouverture qui, au lieu de craindre la destruction de l'identité locale, soit capable de créer de nouvelles synthèses culturelles. Donc, la créolisation, peut-être, est un mot qui ne lui fait pas peur, Jean-Marie Guénois.
J'irai pas jusque-là parce que il y a quand même, c'est un peu sa méthode. On l'a vu, on en parlera peut-être à l'occasion de la réforme intérieure de l'Église, la Curie, mais il a déconstruit, il aime déconstruire ce qui lui paraît trop endormi, trop stable, trop statique. Donc il y a une phase de déconstruction. Il donne le coup de pied dans la fourmilière pour voir ce qu'il en advient et ce que l'on pourrait éventuellement reconstruire. Donc effectivement, il a attaqué le concept d'identité chrétienne, d'identité occidentale fondée sur des racines judéo-chrétiennes. Ça, il a attaqué. Maintenant, c'est intéressant de voir à quel moment il a un petit peu basculé. C'était lors du voyage en Suède. Je n'ai plus la date exactement en tête, mais j'étais dans l'avion avec lui. Donc, on part le matin. C'était le voyage dans le pays des merveilles où, effectivement, les immigrés recevaient, selon l'étroiteté, un travail, un toit, une formation. C'était son slogan. Et puis, il rencontre là-bas des ministres du gouvernement social-démocrate. Et puis, on lui dit là-bas, vous savez, on n'y arrive plus. Vous savez, on ne peut pas faire. Vous savez, il y a des limites. Et au retour, le lendemain soir, il a pris conscience de ce problème des limites. Alors, ce n'est pas tant la question de l'identité, c'est la question des limites de l'accueil qu'il a entendu de praticiens et qui sont hors de toute soupçon, puisque ce sont des sociaux-démocrates qui font partie de sa famille politique, quand même, le PAS était plutôt centre-gauche. Et là, il commence à changer un peu de discours.
Vous êtes d'accord avec ce
Moi, je pense qu'il est venu, en effet, avec peut-être une certaine idée de l'Europe qui, disons, il ne voyait pas l'héritage, je pense, parce que ça, je le crois assez volontiers. Peut-être qu'il en a quand même pris conscience progressivement. Il y avait cette phrase qu'il a dite, et dont il a prononcé deux mots qui, paraît-il, ont fait son élection au conclave. Hein. Les périphéries et sortir de l'autoréférence. Et je me demande s'il n'y avait pas toujours un peu cet arrière-plan chez lui que l'Église doit sortir de l'autoréférence, qu'elle doit se remettre en question, voir ce qui se passe ailleurs. Enfin, il avait presque un prurite d'altérité chez lui quelque part, et ça... aussi dans ce qu'il appelle les périphéries existentielles, c'est-à-dire l'autre handicapé, le pauvre. Il y a une préférence chez lui pour ça qui était évidente et même une façon concrète de faire incroyable. Par exemple, on va peut-être en reparler, mais pour les handicapés, moi ça m'a toujours frappé, il arrivait quand même à prendre dans ses bras des handicapés que le commun des mortels n'aurait presque pas approché, quoi. Il arrivait à les serrer sur son cœur et manifestement, chez lui, il y avait là quelque chose de très profond.
Oui, mais n'avait-il pas, par ailleurs, une vision un peu naïvement idyllique de l'altérité, ce que vous dites des handicapés, et bouleversant, Jean-Louis Chéguel. Mais moi, je pense à un autre voyage. Alors, y étiez-vous, Jean-Marie Guénois? C'était dans l'avion qui le ramenait des JMJ de Cracovie. Et on l'interrogeait sur l'égorgement en pleine messe du père Jacques Hamel. Et voici la réponse du pape. Je n'aime pas parler de violence islamique, car tous les jours, quand je feuillette les journaux, je vois des violences ici, en Italie. Celui-ci qui tue sa fiancée, un autre qui tue sa belle-mère... Et il s'agit de catholiques baptisés violents. Ce sont des catholiques violents. Si je parlais de violence islamique, je devrais également parler de violence catholique. Youssouf Al-Qaradawi, le guide spirituel des frères musulmans avait pourtant affirmé « Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons, avec nos lois coraniques, nous vous dominerons ». Il y a un programme, et ça n'a rien à voir avec les faits divers dont le pape parlait pour ne pas poser la question de la violence, sinon islamique, bien sûr, en tout cas islamiste.
C'est une des phrases les plus terribles de mon point de vue de ce pontificat. Alors, il faut les replacer dans le contexte, c'est des phrases prononcées dans des conférences de presse. Mais tout de même, il met sur le même plan, alors que la France est bouleversée par cet assassinat, il faut bien l'appeler comme tel, et il y avait d'autres victimes, de violence, comme s'il n'y avait pas de référent autre que la violence. Une analyse très formelle, très structurelle, sans intention particulière, qu'il compare. Il faut, à sa décharge, rappeler qu'il est quand même en charge, il est un des chefs religieux mondiaux et qu'il ne peut pas lancer un anathème qui immédiatement se transformerait en violence. On a vu le précédent sous Benoît XVI, dans un discours en Allemagne, je vais très vite sur le sujet, je rappelle en deux mots, il faisait référence à une violence dans l'islam, selon un auteur ancien, et qui avait immédiatement provoqué des manifestations, des morts dans le monde entier. Donc, l'Église avait été très traumatisée par cette expérience. Ils avaient mis beaucoup de temps, d'ailleurs, ils avaient impliqué le cardinal Jean-Louis Torrent, un Français qui était grand diplomate, pour essayer de renouer des liens avec l'islam. Donc, le pape est très prudent, d'où cette phrase incompréhensible, de mon point de vue. D'ailleurs, j'ai été un peu à l'origine de cette question, pour tout vous dire, de réaction sur ce sujet. Et c'était hallucinant pour une mentalité, même pas du tout d'extrême droite européenne. C'était une sorte de... dire, comment se fait-il qu'on puisse parler de... mettre sur le même plan une violence catholique, une violence islamique. Là, le pape... et je vais terminer là-dessus, a été très mal compris, et on revient, et justement je termine là-dessus, sur sa compréhension de l'islam. Il vient d'un pays, l'Argentine, où l'islam, les musulmans, sont un peu comme dans d'autres pays, de très vieille immigration. Ce sont des Syriens, des Libanais, qui sont arrivés là au XIXe siècle, qui sont aujourd'hui l'élite de la société, une des parties de l'élite. Donc il a une expérience tout à fait harmonieuse, pacifiée, non polémique, je parle de l'Argentine. Et il avait ça en lui. C'est une génération et qui a, en quelque sorte, là, c'est la vraie question. Il n'a pas posé un certain nombre de problèmes que, et là, je dis une chose, parce que c'est très important, une des seules choses qu'a dit le nouveau pape, donc Léon XIV, qui vient d'arriver, sur la question des musulmans, il a dit, nous poursuivons le dialogue, bien entendu, à deux conditions, le respect réciproque et la liberté de conscience. Ça, François ne l'a jamais trop dit.
Et alors, je rappelle simplement la conférence de Ratisbonne, puisque vous avez fait référence, Jean-Marie Guénois. C'était le 12 septembre 2006, et Benoît XVI citait l'extrait d'une polémique entre l'empereur byzantin Manuel II, paléologue, et un interlocuteur musulman au XIVe siècle. L'empereur disait, de manière si peu amène, note Benoît XVI, « Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau, et tu ne trouveras que des choses mauvaises et inhumaines, comme son mandat de diffuser par l'épée la foi qu'il prêchait. » Pour contredire le discours de Benoît XVI, il y a eu des violences, disons, oui, commises dans un certain nombre de pays. Donc, mais voilà qui explique peut-être le refus de François de parler de violence islamique, mais... comment réagissez-vous, justement, Jean-Louis Sével, à cette détermination ?
Jean-Marie a raison. Il y a peut-être deux choses. Hein, c'est qu'il n'avait pas réalisé encore, s'il l'a réalisé exactement, la place des attentats en Europe, le rôle de Daesh pour nous en Europe, des choses de ce genre-là. Je crois que c'est possible. Et aussi, alors certainement qu'il est quand même un des grands chefs religieux. Et je pense qu'il avait aussi en tête éventuellement les relations islamo-chrétiennes, quoi. J'ai même lu récemment qu'au fond, il était peut-être plus intéressé par les relations avec les autres religions pour faire la paix entre les religions que, par exemple, la paix avec les protestants, ou disons par l'œcuménisme habituel qui a cours en Europe, hein. C'est notre problème entre catholiques et protestants. C'est possible, je ne sais pas.
Je rappelle quand même qu'il y a eu aussi un attentat ou des attentats en Argentine. Jean-Jules n'a pas été épargné par la violence politique ou géopolitique. Jean-Marie Hénouard.
Si vous permettez, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Louis Schlegel, sur cette passion pour le dialogue avec l'islam. Parce qu'il y a eu un autre épisode extrêmement important, c'est le rapprochement du pape François avec, à travers en tout cas, le canal de l'université Al-Azhar du Caire et son recteur, Al-Tayeb, qui est devenu un ami et avec qui le pape François a élaboré cette fameuse charte de la fraternité, nous y revenons, la fraternité universelle qui a été proclamée aux Émirats Arabes Unis. Ou finalement, un texte assez consensuel, où évidemment, il n'y avait aucune arrête des deux côtés, presque assez, je veux dire, par rapport à ce qu'était le christianisme, assez, c'est une vision, disons, d'un Dieu universel, bon, qui devait créer une fraternité. Très bien sur l'idée. Cela dit, Al-Tayeb savait ce qu'il faisait, parce qu'il était assez isolé, lui, dans le monde musulmans, donc profitait de cette occasion pour reprendre une surface internationale dans un contexte complètement bouleversé à l'intérieur de l'islam, avec évidemment toutes les Al-Qaïda et compagnie. Donc on a eu là finalement l'impression que le pape, dans sa vocation, après tout, on ne peut pas lui reprocher d'avoir tenté la fraternité, ça n'aurait pas de sens, d'avoir tout fait pour gagner la paix et désarmer en quelque sorte la violence, si tant est qu'on puisse prononcer ce mot, dans le monde musulman. Et on ne peut pas lui reprocher ça. Maintenant, il y a une forme de naïveté, on peut le dire, une forme de naïveté. Moi, je ne peux pas, ou alors un calcul d'intellectuel, responsable religieux, je ne parle pas de ce sujet qui fâche, on n'arrivera à rien, c'est aussi une stratégie. Mais à la fin, on se dit, mais quand même, puisqu'on nous fait des leçons de conscience sur la question des migrations, et avec raison certainement, il y a sans doute une indifférence qui n'est pas juste, mais qu'on aille jusqu'au bout aussi, qu'on applique cette conscience et cette lucidité, je pense, à ce dialogue-là, ce qui ferait aussi du bien à tout le monde, y compris à certains musulmans. Il faut en parler avec des gens modérés dans l'islam, j'en connais beaucoup, ça fait partie des secteurs que je couvre, qui sont très heureux de voir des gens qui objectent la question de la violence, qui osent le dire.
Ce qu'on se pose toujours comme question avec... J'allais dire avec les grands de ce monde et donc aussi avec le pape, c'est par qui se font-ils conseiller? On dit que, par exemple, sur justement, il avait nommé un secrétaire d'État, Parolin, hein, comme secrétaire, mais on a dit qu'au fond, il le consultait peu, il se parlait peu, il ne demandait pas son avis. Peut-être que là, il aurait eu quelques conseils utiles aussi pour l'Ukraine, au tout début, en tout cas, il a un peu changé après, comme on le sait. Qui le conseillait, mettons, pour ses voyages particuliers, pour ses relations particulières avec d'autres religions, pour les aspects politiques d'un certain nombre de décisions qu'il prenait, de paroles qu'il disait, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a... Lui qui était contre l'autoréférence, il y avait quelque oui. chose d'autoréféré à lui-même.
À lui-même, oui.
Je pense que par tempérament, hein, je ne crois pas que ce soit très jésuite, ça, c'est plutôt un tempérament... qu'il avait, qui s'est peut-être même accru chez lui pendant qu'il était pape.
Mais oui, c'est-à-dire que, et ça vous le montrez très bien, Jean-Marie Guénois, c'est un pape qui se voulait plus égalitaire que ses prédécesseurs et qui a été aussi, en fait, très autoritaire, qui exerçait un magistère sans contrepoids, sans contre-pouvoir, et qui, ce faisant, effectivement, n'écoutait peut-être pas des conseils avisés qu'il aurait dû entendre. Mais je voudrais maintenant que nous abordions justement les questions intérieures de l'Église. Là aussi, il a essayé d'intervenir, ça a été très difficile, notamment sur deux questions particulièrement crucial dans la vie de l'Église, en tout cas, le célibat des prêtres et le problème des divorcés remariés. Alors, parlons d'abord du célibat des prêtres. Pourquoi est-ce si important dans la vie de l'Église, ce célibat? Ça, je voudrais bien le savoir. Qu'est-ce qui se joue là-dedans et qu'a tenté le pape François? Jean-Marie Hénouard.
Vaste question, Anna Finkielkraut. Le célibat des prêtres, c'est au fond une interprétation de l'évangile selon la doctrine catholique. Les orthodoxes ne sont pas sur ce registre-là, ni les protestants, qui consiste à voir que le prêtre, celui qui donne, qui est en sacerdoce, il donne sa vie, il la donne totalement. Alors, c'est une longue histoire, je vais très très bref sur ce sujet. Au fond, l'Église a finalement légiféré sur une question qui n'a jamais été facile à mettre en œuvre, en réalité, légiférant de plus en plus durement, imposant le célibat à un moment donné, pour que le prêtre soit totalement dédié, l'homme de Dieu dédié à son peuple, avec des problèmes annexes, la question qu'on voit dans les églises orientales ou catholiques, où il y a le mariage des prêtres, des problèmes de succession, des problèmes d'héritage avec les enfants, l'intervention de la femme dans les affaires du prêtre, bon, des choses qui sont tout à fait périphériques, mais qui ont montré la difficulté. Mais la question, c'est le célibat, donc fondamentalement la chasteté. Alors, s'ajoute à cette difficulté qui est séculaire de vivre ce célibat, la question récente des abus sexuels, la question du manque de vocation religieuse. Donc cet ensemble fait qu'aujourd'hui, la question du célibat était cruciale. Que faire? Comment remplir les séminaires? Faut-il abolir le célibat? Les autres religions, soit dit en passant, les protestants, même avec le mariage des pasteurs, n'ont pas plus de succès. C'est la question aussi sociale de l'homme de Dieu qui est en cause dans nos sociétés. Donc il arrive avec un sujet qui est demandé par les autres cardinaux qui l'ont élu. Il mûrit, puis il y a ce fameux synode sur l'Amazonie. Donc, on est au tournant des années 2019.
Ouais. 19, je crois.
Et là, parmi les propositions votées, un synode, on réunit 300 experts, évêques à Rome pendant un mois, et ça cogite, ça turbine sur des problématiques, dont celle-ci, comment en Amazonie, cette immense zone géographique, hein, c'est plus qu'un pays, faire que des communautés qui ne voient jamais un prêtre ou peut-être une fois par an puissent avoir la messe de temps en temps. Eh bien, ordonner des hommes mariés, sages, qui ont démontré leur capacité et leur sagesse, des hommes mûrs, pour être prêtres. C'est voté. C'est voté à la majorité des deux tiers de ce synode. Donc tout le monde se dit, eh bien, le pape va accepter. Et finalement, le pape recule quelques mois après en disant, si j'accepte ça, l'Église expose. Il ne l'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça.
Et vraiment, l'Église aurait explosé.
On dit toujours que c'est la crainte d'un schisme.
Ah oui.
Qui est derrière le refus, finalement, derrière cette réforme qui paraît de l'extérieur tellement simple et tellement évidente, mais qui, à l'intérieur, braque, c'est le cas de le dire, énormément un certain nombre de catholiques. Parce que le prêtre est devenu presque une sorte de... D'abord, c'est le verrou, quand même, de tout le système ecclésial catholique, je crois, d'une part. Et puis, d'autre part, son institution, il y a à peu près un millénaire maintenant, son institution définitive, au temps de Grégoire VII, a fait que la division entre clair et laïc s'est imposée comme une sorte de différence presque, je ne sais pas comment dire...
Ontologique, oui.
Du catholicisme, quoi. C'est sa différence par rapport à toutes les autres religions. Et c'est vrai que, du coup, le prêtre, homme séparé, revêtu aussi d'une sorte de sacralité, il est ailleurs, quoi. Il vient d'ailleurs, il vit ailleurs, il vit autrement. Sa consécration comme prêtre, on a fait un autre homme un homme qui est un peu qui fait l'intermédiaire entre le divin et l'humain. Il y a quelque chose de ça, je crois, et ce qui fait qu'un certain nombre de catholiques qui ont été habitués à cette figure-là, c'est quelque chose pour eux d'absolument inconcevable qu'on puisse porter atteinte. Je crois qu'il y a quelque chose de ça. Par rapport au développement récent, moi, personnellement, alors il y a aussi maintenant le fait que, comme il y a une très forte crise du recrutement, on dit, mais comment on va faire, hein? Parce que si ça continue comme ça, toujours dans les pays d'Europe, ou disons dans les pays d'Occident, et un peu au-delà, les pays, pratiquement les pays développés, de tous les pays développés, il y a quand même une forte crise, comment va-t-on faire? Alors que c'est le personnage central. Bon, ça c'est une question. L'autre question, pour moi, si vous voulez, j'allais dire, aujourd'hui, la question du célibat, ça serait plutôt presque une sorte de... La question d'une santé, que l'Église retrouve une certaine santé du côté de toutes ces questions de sexualité, de corps, d'abus, enfin, on voit bien que les abus, on a quand même un mal de chien à en sortir s'il n'y a aucune réforme concrète qui est faite, quoi. Il faut donner une visibilité un peu à la volonté de sortir de là. Si on dit simplement, on va prier plus, on va faire des efforts de chasteté plus grands, des choses de ce genre-là, une formation des séminaristes, c'est-à-dire une semaine par an dans leur formation sur la vie sexuelle, sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce domaine-là, bon, ça ne donnera pas grand-chose, c'est évident.
Oui, et donc le pape a reculé par peur du schisme. Il y a un autre domaine où là, il s'est montré plus courageux, c'est le statut des divorcés remariés. Alors, dans la tradition, quel est ce statut, Jean-Marie Ganois, et qu'est-ce que le pape François a essayé de changer ?
Ce qui se passe, c'est que l'Église considère que le mariage est indissoluble, mais vraiment strictement. Quand deux personnes librement devant Dieu, même le prêtre n'est que témoin dans ce cas-là, disent je m'engage, je me donne à toi pour la vie, c'est constaté, c'est indissoluble. On ne va pas analyser les causes historiques de cette situation, mais c'est ainsi. C'est au niveau d'un dogme. Quand il y a divorce, l'Église considère qu'elle n'a pas le droit. Les clés de Saint-Pierre n'a pas le droit de rendre soluble ce qui était indissoluble. Alors, il fallait trouver une solution, parce qu'il y a un phénomène d'injustice, de ce que j'ai appelé moi la double, voire la triple peine. Vous subissez un divorce. Déjà, c'est déjà difficile. Ensuite, vous êtes chrétien, vous êtes catholique, vous allez à la messe le dimanche, et on vous dit « Ah ben non, vous êtes divorcé, dès lors que vous avez refait votre vie, hein, vous n'avez plus accès à la communion. » Deuxième peine. Et donc, le pape, comme d'autres, hein, c'est un sujet très sensible qui était déjà interrogé sous Benoît XVI. Benoît XVI avait travaillé une commission théologique internationale sur le sujet. C'est des sujets qui sont dans l'Église depuis vraiment dans la conscience. Comment trouver une solution ? Et lui s'est dit, finalement, on ne peut pas toucher au dogme. Donc la seule solution, c'est d'analyser comment on pourrait réintégrer des gens qui ont, alors, à des conditions très strictes. La première, c'est d'avoir été juste avec ses enfants, juste avec son ancienne ou ancienne époux-épouse, d'avoir reconstruit une vie stable et quasi définitive, à ses et quatrième condition, vouloir vraiment revenir dans la communion de l'Église catholique. Alors la communion, elle s'exprime pas seulement spirituellement, dans le monde catholique, il y a la communion eucharistique, il y a les sacrements, le sacrement du pardon, qui était interdit à ces divorcés remariés. Donc s'ils répondent à ces conditions, alors le pape a dit, alors on va demander à l'évêque local de discerner, là on retrouve le jésuite, discerner est-ce que ce couple qui réunit les conditions peut revenir dans la communion. Si l'évêque dit oui, alors oui, ça a été cela, cette réforme. Il a contourné l'obstacle en se reposant quelques conditions de justice et en se reposant sur le discernement de l'évêque local pour admettre à la communion et donc à tous les autres sacrements, le pardon, l'extrême onction, tout ce qu'on veut, pour que ces couples puissent être dans la communion, même s'ils sont divorcés ou mariés.
Alors, Jean-Louis Séguier.
Oui, alors, il y a aussi ceux qui disent qu'il faut ajouter aux conditions le fait qu'ils vivent comme frères et sœurs. Donc, le nouveau couple. Alors,
ça n'a pas été ajouté, quand même.
François ne l'a pas dit, mais il y en a qui le réclament, hein, en disant que ça se lit, ça se voit, en tout cas. Enfin, peu importe. Moi, je trouve ce qui est quand même là encore irritant au possible, enfin, en tout cas pour moi, c'est les divorcés remariés dont nous parlons, ils ne sont pas légions. J'allais dire, c'est les meilleurs, c'est les plus attachés à l'Église, qui voudraient revenir à l'Église, qui voudraient communier lors des Eucharisties, des choses de ce genre-là. Et on leur dit, allez, niette, ce n'est pas possible. Je trouve qu'il y a quelque chose d'insupportable quand même dans cette, pour le coup, dans cette absence de miséricorde, peut-être si on peut parler ce langage-là. L'autre chose que je voudrais ajouter quand même, c'est à propos, vous avez posé la question du prêtre célibataire, mais dans l'Église catholique, il y a du sacré. Il y a des sacrements, il y a du sacré, des choses sacrées. Et c'est vrai que quand on a été élevé dans cette ambiance sacrale, c'est parfois difficilement dépassable, quoi. Je crois qu'il faut bien avoir ça en tête. Ce qui fait que ceux qui restent un peu dans les limites de la discipline de l'Église, ceux qui font un effort de sainteté, en particulier sur certains points, comprennent très mal que l'Église puisse sortir de son intransigeance sur ces questions. C'est très étrange, mais c'est un sacré qui les fait vivre quelque part, enfin, mais bon.
Il est vrai aussi que vouloir à tout prix désacraliser l'Église pour la mettre au goût du jour, cela pose un problème. Mais d'un autre côté, vous avez parlé de schisme tout à l'heure, Jean-Louis Schlegel, le Ratzinger avait voulu surmonter un schisme dans l'Église en autorisant à nouveau la messe en latin. Et curieusement, le pape François n'a pas du tout voulu en entendre parler. Il s'est montré sur cette question-là catégorique et même féroce. Pourquoi, Jean-Marie Guénois? Parce que la messe en latin, je veux dire, alors, ça ne gêne personne.
Un paradoxe chez François, qui n'est pas le premier paradoxe d'ailleurs, et c'est un homme paradoxal qui a toujours eu parfois des positions opposées sur un même sujet ou selon les circonstances. Et il avait une grande estime pour ce qu'on appelle les intégristes, c'est-à-dire ceux qui sont sortis à l'époque de Monseigneur Lefebvre, je sais pas, donc qui avait ordonné des évêques et donc sortis de la communion de l'Église catholique sur la question notamment de la messe selon l'ancien rite latin. Bon, mais il y a aussi les traditionalistes, une autre catégorie de gens qui ont cette sensibilité pour la messe selon l'ancien rite dite en latin. Mais qui veulent, mordicus, rester attachés à Rome. Il dit, en aucun cas, on veut être infidèle au pape. Donc, c'est ces gens-là, les plus fidèles, de certaine manière, de cette sensibilité, que le pape a, on pourrait presque dire, matraqué, parce qu'il a cassé l'accord, l'accord de réconciliation qu'avait voulu Benoît XVI avec cette frange-là. Il les a ostracisés, il les a fichés. Il faut quand même voir que dans le document légal, c'est un décret d'application qui cassait le décret de Benoît XVI, il demande que si des jeunes prêtres désirent célébrer la messe selon le rite, on devra demander l'autorisation à Rome. Ça veut dire qu'à Rome, il y a une liste des jeunes prêtres qui auraient ces sensibilités-là. C'est du jamais vu. Donc on ne peut pas imaginer une telle, parfois violence, mesure sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que la hantise, et je termine là-dessus, la hantise de François, c'était de voir une église parallèle, parce qu'il se trouve que dans ces milieux-là, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de vocations, c'est quasiment des églises autonomes, et ça, François en avait peur, pas seulement en France, parce que finalement, ce phénomène concerne la France, mais aussi aux États-Unis.
Et que pensez-vous, Jean-Louis Schlegel, de cet acharnement?
Oui, moi, je pense que s'il n'y avait que la messe en latin, je ne sais pas ceux qui la pratiquent, ceux qui y vont, je ne sais pas si François aurait mis le haut là. Mais personnellement, j'ai l'impression, enfin, et je l'approuverais plutôt quand même, dans ce, non pas quand il prend cette décision, mais sur le jugement qu'il fait, beaucoup de ceux qui gardaient la messe en latin, finalement, étaient aussi très anticonciliaires, critiquaient assez fortement Vatican II sur d'autres sujets, sur beaucoup d'autres sujets. Et je crois que là, c'est à ça que François a réagi, d'autant plus, alors là, Jean-Marie a tout à fait raison, c'est que ils ont le vent en poupe, au moins dans trois pays, aux États-Unis, en France et en Allemagne, hein, surtout dans ces trois-là.
Alors, ils ont le vent en poupe parce qu'ils veulent la messe en latin et que beaucoup ont la nostalgie de la messe en latin, ou pour d'autres raisons,
Jean-Louis? Oui, moi je crois que c'est plutôt pour d'autres raisons.
D'accord.
Vous savez, moi je suis sur un réseau social que je ne nommerai pas pour ne pas lui faire de publicité, mais parfois quand sort cette question, je vais voir ceux qui s'expriment en faveur de la messe en latin. Je vais voir un peu leur passé, leur histoire, parce qu'il y a toujours quelques renseignements, parfois pas. Mais vous savez quand même, quand je trouve les renseignements, je vous assure qu'à 90%, on est dans une extrême droite très marquée, hein, quand même, avec une histoire qui commence avec Maurras, qui passe par Vichy, qui passe par la guerre d'Algérie. C'est très très fréquent. Il y a quand même ça derrière. Voilà, je voulais juste le dire, mais ça ne veut pas dire que j'approuve nécessairement disons, le fait qu'on leur ait enlevé cette possibilité.
Enfin, donc, je pense qu'il faudrait soustraire la messe en latin à l'extrême droite, parce que l'extrême latin, c'est quand même très beau.
Mais moi, j'étais totalement dans le grégorien dans mon enfance. Je pourrais encore en chanter beaucoup plus que ceux qui vont à la messe en latin, mais je dis toujours, j'irai quand il n'y aura plus cet arrière-fond tradit, mais au sens aussi politique.
D'accord, très bien, oui.
Moi, je suis réservé, voilà. Bien sûr, ce que dit Jean-Louis est juste. Mais il y a des Américains, il y a des Allemands, il y a d'autres dans d'autres pays qui ont cette sensibilité-là. La question, bien sûr, d'abord, il y a des gens de toute sensibilité dans l'Église, et c'est la grandeur de l'Église d'accueillir, et oui, il y a des gens d'extrême droite, et oui, il y a des gens d'extrême gauche, il y a des verts, il y a des rouges, il y a des bleus et des blancs. C'est comme ça. Maintenant, la question centrale, c'est le sacré, pour moi. C'est le sacré. Et là, comment l'Église aujourd'hui propose justement cette contradiction dans ce monde technologique, digitale, du sacré, du mystère. C'est incompréhensible, mais c'est pourtant une marque du christianisme.
Alors je voudrais, pour finir, m'arrêter à une lettre du pape François qui m'a beaucoup touché, lettre sur le rôle de la littérature dans la formation. Loué soit la lecture. Et dans cette lettre, parce qu'on a l'habitude d'une église qui met la littérature à l'index, le pape François procède tout autrement, il cite Proust. Et une phrase absolument magnifique, « Les romans libèrent en nous pendant une heure tous les bonheurs et tous les malheurs possibles dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns et dont les plus intenses ne nous seraient jamais révélés parce que la lenteur avec laquelle ils se produisent nous en ôte la perception. » Il dit aussi que lire, c'est être lu par ce que nous lisons. Il parle de la littérature comme d'un gymnase du discernement, et il dit qu'elle éduque le regard à la lenteur de la compréhension, à l'humilité de la non-simplification, à la mansuétude de ne pas prétendre maîtriser la réalité et la condition humaine par le jugement. C'est très étonnant de la part d'un pape, mais il dit que ça doit faire partie de la paideia, de l'éducation des prêtres, la littérature dans son intégralité. Comment avez-vous reçu
j'ai trouvé ce texte absolument sidérant. Et là, je pense que ça pourrait être un héritage quand même, de l'humanisme jésuite qu'il a eu dans sa formation, parce que lui-même est d'origine scientifique, hein, de technique, mais je pense qu'il a appris à lire dans la compagnie de Jésus. Et là, je trouve que c'est étonnant, parce que la plupart des textes de l'Église sont pour le coup alors totalement dans l'autoréférence. Les papes renvoient aux encycliques des papes précédents, tout ce qu'ils ont dit, mais on n'a jamais vu quelqu'un qui dit « nous avons à apprendre de la littérature, en plus de la littérature, pour le coup, séculière et absolument incroyable ». Enfin, c'est vrai, moi, ça m'a étonné énormément.
Et vous aussi ?
Moi, pas du tout, c'était une logique. C'est évident que ce pape est un pape existentiel, le pape François, qu'il, ces phrases, ces raccourcis, cette capacité littéraire qu'il avait de s'exprimer, de toucher tous les publics, venaient justement de son amour de la poésie et de la littérature, qu'il avait acquis comme professeur de lettres, jeune jésuite.
Oui.
Donc voilà un homme qui est justement, qui tranche avec les théologiens. J'ai beaucoup d'admiration pour Karl Ratzinger et Benoît XVI du point de vue théologique, mais ça tranchait, on avait un pape qui parlait à tous avec des formules claires, limpides, claires, et donc on est dans cette logique justement de ce pape des périphéries qui parle au-delà de la ville.
Alors un tout dernier mot, à votre avis, qu'est-ce que le nouveau pape, Léon XIV, va retenir de cette logique, de cet héritage ? Jean-Marie Guénois et puis Jean-Louis Stegel.
Alors, au premier signe dont on dispose, c'est-à-dire 15 jours de pontificat, on peut dire que le pape Léon XIV s'inscrit dans cette dynamique, mais qu'il recentre. Il recentre surtout à l'intérieur. Il va stabiliser une église que le pape François a sorti un peu de ses gonds, de ses habitudes, mais qui, au début du pontificat, mais en deuxième partie du pontificat, qui est devenue une église en crise. Et donc, il y a eu un fort besoin dans le conclave, les cardinaux, d'élire un homme à la fois qui entendait ce qui avait été fait, mais qui, en droit, c'est un homme de droit, c'est un juriste, un docteur en droit canonique, va stabiliser, accompagner, aider à digérer ce pontificat et le relier surtout au précédent jusqu'à Paul VI. Donc, Benoît XVI, en un mot, incarne Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François.
Et le pape François, d'ailleurs, il a revêtu, la basilique Saint-Pierre, son habit d'apparat, alors que...
Il est très classique.
Très classique, alors que François était apparu, lui, tout en blanc. Jean-Louis Stegel.
Oui, il a quand même dit très vite qu'il voulait vraiment s'inscrire dans la continuité de François. Je crois qu'il va le faire, qu'il veut le faire, mais avec toutes les formules ou les... du centrisme ou de la médiation possible entre les extrêmes. Je pense qu'il veut quand même gommer les aspérités de François. Et là, on l'attend un peu au tournant, mais qu'est-ce qu'il va gommer ? Qu'est-ce qu'il va garder ? Où seront ses aspérités à lui ?
Voilà, ben nous terminerons sur ces questions. Merci beaucoup Jean-Louis Chéguel, merci aussi Jean-Marie Hénouin. Alors Jean-Marie Hénouin, vous avez publié « Le pape François, la Révolution » aux éditions Gallimard. Vous venez aussi de faire paraître, ça c'est un exploit littéraire et éditorial, un livre intitulé « Léon XIV, de révélation en révélation ». J'ai cité également du pape François la lettre sur le rôle de la littérature dans la formation, louée soit la lecture, lettre précédée d'une préface enthousiaste de William Marx et Jean-Louis Chéguel. Vous avez co-dirigé naguère avec Denis Pelletier un livre intitulé « À la gauche du Christ, les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours ». Voilà, et c'était aux éditions du Seuil. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation Anna Holweck, à la technique aujourd'hui Lucien Lefebvre. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Vivre avec Proust ». Mes invités seront Catherine Cusset et Anne Simon. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.